Mais il semble quand même que ce ministère prophétique existait sous une autre forme, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et qu'il y avait un discernement parmi les gens de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en disant ce que ces gens disent et font, que ce soit les filles de Agabus ou Agabus ou comme ça, n'est pas du même genre, du même niveau que les autres. Et n'est pas normatif. Alors, pourquoi c'est pas normatif? Peut-être parce que c'est du domaine de du domaine personnel, n'est-ce pas, d'une édification, d'une exhortation, c'est dans ce domaine-là. Et moi, je crois que c'est dans ce domaine-là que ce ministère s'exerce.
Donner un avis.
Oui, bien sûr.
Dans cette discussion, le ministère prophétique actuel dans l'Église est soumis à contrôle. L'apôtre dit de rejeter pas les prophéties, mais examiner et retenir ce qui est bon. Alors, il est évident que si on prenait le Nouveau Testament et qu'on venait examiner et retenir ce qui nous paraît bon dans le Nouveau Testament, ben, il n'y a plus de Nouveau Testament. Donc, il y a quand même une différence entre ce qui sert de référence pour juger la suite et cette suite elle-même. Donc on n'est pas tout à fait au même niveau puisqu'il y en a une qui permet de juger l'autre.
C'est juste. Tout à fait. Donc c'est tout à fait un complément. Donc une des prophéties ou un type est normatif. Et on ne discute pas puisque c'est la parole du Seigneur. Quand Jérémie ou Ézéchiel ou d'autres disent « Ainsi parle l'Éternel », ben, il ne fallait pas juger, il fallait obéir. La même chose quand Pierre, Paul, Jean et Jacques parlent. Alors que pour les autres prophètes, il faut évaluer, n'est-ce pas, les juger, en quelque sorte, retenir ce qui est bon. Donc c'est tout à fait un autre genre que cela se passe. Et je crois, il me semble que le prophète contemporain devrait peut-être avoir cette humilité de dire, oui, je parle, je t'exhorte dans ce sens, j'en suis convaincu, mais de dire ainsi parle l'Éternel, je suis des fois un petit peu gêné. C'est pas parce que on prend une autorité qui souvent n'était pas l'autorité du Seigneur. Alors, si vraiment ces paroles viennent du Seigneur, est-ce qu'on a encore besoin de dire, n'est-ce pas, c'est vraiment, c'est l'autorité, c'est le Seigneur qui parle. Je crois qu'on peut dire, en ayant prié, en ayant étudié, médité la Bible, moi, avec d'autres frères, tous ensemble, unanimes, nous voyons que toi, individu, tu devrais agir de cette manière, je pense que c'est dans ce sens qu'on devrait voir une exhortation forte. Et je dirais le conseil des autres, dans ce sens, c'est très important. Oui. Oui.
Il y a peut-être une difficulté dans le fait que le mot prophète soit utilisé pour ces deux genres de travail.
Oui. Mais il est utilisé pour les deux, dans la Bible. Alors c'est clair que ça crée une difficulté. Mais ce n'est pas unique, je veux dire, des fois, le mot loi, on l'a vu aussi, peut représenter différentes choses. Il peut représenter le Pentateuque, il peut représenter toute la Bible, enfin, je veux dire tout l'Ancien Testament. Il peut représenter un aspect charnel, il peut représenter une bonne chose que le Seigneur a donnée pour aider les fidèles à pour les éclairer sur leur vie éthique. N'est-ce pas, le mot loi peut être pris dans différents sens, le mot levain peut être pris dans différents sens. Et le mot prophète peut être pris dans différents sens. Le mot apôtre peut être pris dans différents sens. C'est pas à la base, apôtre veut dire un envoyé. Et parfois le mot apôtre est utilisé dans un sens très limitatif, c'est-à-dire s'applique aux 12 plus Paul. Et parfois le mot apôtre s'applique à tous ceux qui sont envoyés dans le Nouveau Testament. Et d'un côté, un missionnaire peut dire, moi je suis apôtre, je suis envoyé par le Seigneur. Mais d'un autre côté, si un missionnaire me dit, moi je suis apôtre, il dit quoi, tu prétends avoir la même autorité que les 12. Donc c'est vrai que certains mots ont différents usages. Et ça crée certaines difficultés. Ma foi, c'est comme ça.
Le mot évangéliste
aussi. Le mot évangéliste, oui. Il me semble que cette explication de deux types de prophéties, c'est l'explication qui me semble la meilleure pour expliquer ce que l'Écriture nous enseigne. Alors, si on ne veut pas faire de distinction, alors on doit, de manière absolue, dire qu'un ministère prophétique n'a plus existé depuis la mort de l'apôtre Jean.
L'étymologie du mot prophète, c'est dire avant,
oui,
le ministère de ce qui est l'encouragement, c'est pas toujours le dire à l'avance.
Non, mais encore une fois, il faut faire attention au sens étymologique d'un mot. Le sens étymologique d'un mot n'est pas nécessairement le vrai sens du mot. Quand on étudie une langue, on dit toujours que le sens d'un mot dépend de son utilisation, de son usage, et non pas de son sens étymologique. Et quand on regarde ce qu'est un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. D'abord et avant tout pour exhorter son peuple qui vit un moment précis. Et seulement dans un deuxième temps pour annoncer des choses qui seraient à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de prophète, il est d'abord dans le sens d'une exhortation. Et c'est la définition que Paul donne dans 1 Corinthiens 14. Oui, madame ?
Est-ce que dans les Éphésiens ou dans les Romains, que Dieu a donné à l'Église, il y a la liste des ministères.
Oui.
Les prophètes sont nommés dans cette foule, bien ?
Oui.
Dans ma Bible.
Oui. Alors, Éphésiens 4, on parle de ministère de prophète, d'enseignant, d'évangéliste, docteur. Donc, oui, ça a existé, tout à fait. La question de savoir, n'est-ce pas, si certains pourraient dire qu'il y a des choses particulières qui ont existé du temps du Nouveau Testament, on pourrait dire une dispensation particulière. Il ne faut pas être nécessairement dispensationaliste pour dire ça, mais ça veut dire qu'il y a une période particulière dans le plan de Dieu où certaines choses se faisaient qui ne se font plus tard, peut-être parce qu'elles sont plus nécessaires. C'est ce que certains affirment en disant, puisque les apôtres n'avaient pas encore pleinement pu parler et que les écrits n'existaient pas, ils avaient besoin en quelque sorte en parallèle d'un ministère complémentaire. Mais moi, je ne suis pas entièrement convaincu par cet argument. D'abord, c'est un argument logique qui a la valeur de la logique, mais qui n'a pas nécessairement la valeur de l'écriture inspirée. Et puis, on pourrait très bien imaginer des situations dans le passé où des peuples n'avaient pas tellement l'écriture, parce que l'Église catholique la limitait au clergé, dans des situations missionnaires aujourd'hui où les gens ne savent pas lire et où on pourrait dire qu'on aurait aussi besoin d'un ministère complémentaire. Donc il me semble qu'il faut faire attention de ne pas, sur la base de la logique, vouloir tirer des leçons ici. Il me semble que rien dans l'Écriture ne permet de dire que ce ministère était uniquement réservé au premier temps. Mais on a lieu de croire que ce ministère peut continuer à exister dans la mesure où Dieu, dans sa grâce souveraine, le veut. Mais peut-être qu'il donnera plus ce don à un moment donné ou à un autre. Mais ça, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas le préétablir.
Je me souviens avoir lu, du temps des persécutions des Huguenots, dans les Cévennes, que même des enfants ont prophétisé. C'est un livre, je ne me rappelle pas le titre, mais Catharine. J'ai pas vu, quelque chose d'extraordinaire.
Oui, mais encore une fois, n'est-ce pas, bon, on parle d'expérience, mais encore une fois, notre première référence, c'est la parole de Dieu. Parce que si cette parole me dit que ce ministère ne peut plus exister aujourd'hui, alors chaque fois que quelqu'un prophétise, je dois conclure que c'est un faux prophète. Ben, c'est absolument normal. Je ne peux pas conclure autrement. Donc c'est d'abord l'Écriture qui va nous dire est-ce que c'est possible, et si c'est possible, comment est-ce qu'il va s'exprimer ce ministère. Et puis, bon, quand on nous demande d'examiner, ben, c'est d'examiner à la lumière de l'Écriture, est-ce que les valeurs, est-ce que les normes, la direction, l'orientation est en rapport et conforme à l'Écriture sainte. Et si ce n'est pas, alors on doit dénoncer cette parole comme étant un faux prophète. Parce que l'ennemi, n'est-ce pas, séduit, et c'est toujours quand quelqu'un vient et paraît religieux, ça nous impressionne toujours un petit peu. Et quelqu'un qui parle avec autorité, ça nous impressionne. Et je crois qu'on ne doit pas se laisser impressionner. Si on est dans le doute, si on est un jeune chrétien, on est dans le doute, mais alors partageons avec les anciens, partageons avec les aînés qui ont une meilleure connaissance de l'Écriture. Quelle est leur opinion là-dessus? Et puis, je crois que dans une église qui est mûre, qui lit régulièrement l'Écriture, il y aura des hommes ou des femmes sages, des aînés, qui pourront clairement nous dire dans quel sens il faut comprendre cela.
De Joël, justement, où c'est marqué, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes.
Donc cela s'applique tout à fait à Acte 2, n'est-ce pas? C'est Acte 2 que tu as lu. Donc certains diront, n'est-ce pas? Moi j'essaie de présenter les... Non, ils disent, ils contestent pas ce texte.
Ils disent que c'était accompli dans...
Oui, ils disent que c'était une parole qui a été réalisée à un moment particulier.
Mais après, il dit avant l'arrivée du jour de l'éternel.
Ce,
de ce jour grand,
il n'y
avait pas.
Nous n'avons
pas
d'enfants. Oui, oui. C'est ça, mais on doit voir de quel ministère il s'agit ici. Oui, mais quel genre de prophétie? Oui. Alors, c'est là où on revient en fait à ce que j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Il y a deux types, et parce que si on ne fait pas ces différences, alors on est obligé de conclure que le ministère prophétique s'est arrêté avec l'apôtre Jean. Voilà. Bon, je crois que on a dit ce qu'on pouvait dire ce soir. Je crois qu'il y a peut-être de la place à la méditation concernant ce thème. J'aimerais, puisque l'heure passe quand même, prendre encore maintenant les questions qui ont été posées. L'une touche au libéralisme. En fait, deux vont dans ce sens-là un petit peu. Et puis, une ou deux touchent les apocryphes. Alors, ici une question. Je crois savoir que lors du réveil de 1820, où nos assemblées ont vu le jour, que les facultés de théologie étaient libérales, ainsi que les églises, et que l'on ne prêchait plus la repentance, d'où le début du réveil de 1920. Question. Alors, il y en a trois. S'agit-il de cette doctrine de l'évolution que vous nous avez expliquée, l'évolutive que vous nous avez expliquée? Est-ce que la doctrine libérale, on arrive à ne plus prêcher le salut en Jésus-Christ? Et trois, en quoi ou à quoi en est-on aujourd'hui dans les églises dites traditionnelles? Alors c'est vrai qu'en 1920, la théologie qui était annoncée, c'était une théologie libérale pure, on pourrait dire. Et dans cette théologie libérale, on ne prêchait plus... le salut en Christ, tel que nous le comprenons. N'est-ce pas? Il prêchait un certain type de salut, dans le sens que Jésus était le bon exemple qu'il fallait suivre, et qu'en suivant le Christ, alors on vivrait une bonne vie. Mais pas dans le sens d'un salut éternel, comme nous le comprenons et comme l'Écriture l'enseigne. Donc ça, c'était le cas en 1820. Et ce qui a provoqué une réaction très forte de la part de certains chrétiens qui ont dit « Mais on prêche en fait un évangile qui n'est plus l'évangile. On dit, à la place de dire que Dieu s'est révélé au travers de la Bible, on dit non, la Bible n'est qu'un témoignage que les hommes ont donné sur Dieu, cette Bible marque une progression dans la conception que les hommes peuvent avoir de Dieu, mais c'est uniquement humain. Et donc, les chrétiens ont réagi très fortement en disant « Non, on ne peut pas suivre cela. » Ils ont créé des communautés séparées. Je crois qu'ils ont bien fait. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même situation? Alors, il faut dire que le libéralisme présente des visages très différents. Mais qu'il y a quand même une différence importante, en général, entre le libéralisme du 19e siècle et puis le libéralisme du 20e siècle. Et je dirais qu'une personne qui a profondément, je dirais, modifié un petit peu l'aspect, c'est Karl Barth. Karl Barth, qu'on appelle un néo-orthodoxe. Pourquoi? Parce que, apparemment, en apparence, il est redevenu orthodoxe. C'est pas du libéralisme, il est redevenu orthodoxe. Mais qu'il n'est quand même pas totalement redevenu orthodoxe, donc on l'appelle néo-orthodoxe. Donc Karl Barth a vécu au début du XXe siècle. Son premier commentaire qui a vraiment qui a presque fait l'effet d'une bombe, a été publié, je crois, vers 1918-1921, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et en fait, la situation était la suivante. Avant Karl Barth, quand vous prenez un commentaire de n'importe quel livre de la Bible, à peu près la moitié du commentaire était consacrée aux questions des sources. À savoir, n'est-ce pas, si vous prenez la Genèse, quelles sont les différentes sources qui sont derrière le texte de la Genèse? Alors on vous dira, ben, verset chapitre 1, verset 1 à 3, viennent de telle source, verset 4 à 8 de telle source, etc. Et la moitié du commentaire était consacrée à cette question des sources. Puis l'autre moitié commentait le texte. Et puis quand Karl Barth est venu, lui avait suivi toute la formation dans ses écoles libérales, et il a été d'abord profondément marqué et déçu par l'engagement de ses professeurs lors de la Première Guerre mondiale. Il y a une remise en question. Il réalisait aussi que la foi libérale provoquait un affaiblissement terrible dans les églises, qu'il y avait en fait la mort régnait dans les églises où était entendu ce message libéral. Et il a dit, il faut tout changer. Et son commentaire de l'Épître aux Romains qu'il a sorti commençait ainsi, Romains 1:1, et tout de suite il commençait avec le commentaire. Et toute la partie critique était complètement mise de côté. Il disait, mais ce qu'il faut, c'est étudier l'Écriture. Si vous voulez rencontrer le Christ, il vous faut lire la Bible. Alors, dans le contexte de l'époque, on disait, mais c'était révolutionnaire. On disait, mais, ah, un souffle frais est là, et il faut, effectivement, on revient aux bases. Il est orthodoxe. Non, il était néo-orthodoxe. Parce que Karl Barth a, en quelque sorte, n'a jamais rejeté toutes les conclusions de la critique libérale, de la haute critique. Il a simplement dit, ce n'est pas important. Il faut passer par-dessus. En fait, Karl Barth était, dans ce sens, un existentialiste, le premier existentialiste chrétien, dans le sens moderne du terme. C'est-à-dire qu'il a dit, il faut croire en dépit de la raison. La raison, c'est-à-dire la haute critique, nous enseigne que le texte biblique n'est pas fiable, qu'il est plein de fautes, qu'il est plein de paroles humaines. Mais il faut passer par-dessus, par la foi. Et il faut quand même prendre ce texte comme un texte qui viendrait de Dieu. Mais il a dit une parole très connue et importante qui illustre bien sa pensée. Il a dit, la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Elle la contient, mais elle ne l'est pas. Ça veut dire que c'est en lisant la Bible que Dieu va se révéler à moi. Mais il ne va pas dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dira, Dieu ne s'est pas engagé. Dieu ne s'est pas engagé dans les fautes, en disant des choses qui sont fausses. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais la contient. Parce que de manière existentielle, on pourrait dire aujourd'hui de manière miraculeuse, de manière charismatique, Dieu se révèle au travers de l'Écriture. Et donc, Karl Barth a ouvert une voie dans laquelle beaucoup se sont engagés après, et un néo-orthodoxe peut très bien prêcher le salut. Il dira, Jésus-Christ est fondamental. Mais comme il ne s'attache jamais totalement à la lettre, c'est-à-dire au texte écrit, aux mots qui sont écrits en les tenant pour tels, comme inspirés par Dieu, il y a en même temps la possibilité de dévier de 1% à 100%, n'est-ce pas? Certains prendront presque tout comme venant de Dieu, et puis d'autres le prendront un petit peu moins. En fait, l'homme devient juge de la parole, et dit non, ça c'est pas inspiré par Dieu, mais ça, ça l'est. Quand Paul parle des femmes et des maris, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », certains pourraient dire « Oui, mais ça c'était Paul, c'est pas été misogyne, ça vient quand même pas du Seigneur ». Et en fait, c'est l'homme qui devient le juge de la parole. Et puis il y a ce grand accent qui est placé sur la dimension, je dirais presque charismatique, mystique, existentielle de la lecture de la Bible. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de milieux libéraux sont marqués par ce type de compréhension. C'est-à-dire qu'on accepte les résultats de la critique, mais en même temps, on veut travailler avec la Bible. Et c'est plus difficile de se situer par rapport à ces personnes. Parce que d'un côté, ça semble le bon évangile, et d'un autre côté, ben, il y a des choses qui sont mises de côté. Et Karl Barth, dans sa théologie, a certaines failles importantes. Il était proche de l'universalisme, c'est-à-dire que tous les hommes seront sauvés en fin de compte. Quand les hommes réaliseront pleinement qui est Dieu, ben, ils ne pourront pas résister à cet amour. Et vont être sauvés en fin de compte, ils vont être convaincus. Donc ils étaient prêts. Et puis il y a certaines doctrines qui, sans être directement niées, sont tout à fait ignorées. Donc, Karl Barth, il a une dogmatique, je crois, qui se tient à 28 volumes, donc c'est beaucoup. Et puis il a écrit, je crois, dans les 500 livres, il a beaucoup, beaucoup écrit, et puis une dogmatique de 28 volumes. Et puis à la fin de cette dogmatique, il y a un index. Alors moi j'ai fait une recherche sur certains termes. Mais par exemple le mot propitiation ou expiation, je ne sais plus lequel des deux, n'était même pas indiqué dans l'index. On n'en parle pas. Alors il y a une sorte de refrain, on revient toujours à Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. On dit c'est formidable, mais c'est vrai que Jésus-Christ est le centre. Mais dans la pensée de Barthes, il a cette pensée du Christ a détruit l'écriture, a contredit certains textes. C'est pas quand on parle de la révélation générale, quand il est dit dans Romains 1 par exemple que Dieu se révèle au travers de la nature à tout homme, Barthes a très fortement réagi contre ça parce que ça lui semblait trop. Rappeler la théologie libérale qui disait ben, Dieu s'est révélé au travers de la nature. Et puis alors Barthes, quand on parle développe et commente le symbole des apôtres qui dit je crois en Dieu le créateur du ciel et de la terre, alors Barthes dit oui, je crois en Dieu le créateur parce que Jésus-Christ. Et tout de suite il dit on peut connaître Dieu qu'au travers de Jésus-Christ et non pas au travers de la création. Et de cette manière, il nie en fait certaines doctrines bibliques. Alors je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit faire attention. Et d'autant plus que notre société est marquée par l'existentialisme. Et je pense que les communautés qui sont ouvertes à une certaine dimension charismatique, je dis bien une certaine dimension charismatique, ont parfois... court parfois le danger de quitter le domaine de la révélation écrite. Alors, oui pour l'esprit, 100% pour l'esprit, mais pas n'importe quel esprit. L'esprit du Seigneur, l'esprit qui a inspiré le texte biblique. L'esprit ne va jamais se contredire, il ne va pas contredire ce qu'il a déjà clairement exprimé. Alors je crois qu'on doit être charismatique, mais animé par un esprit biblique, l'esprit du Seigneur. Et je crois que c'est pour ça qu'on va toujours revenir aux sources, être des vrais protestants, des vrais réformateurs, revenir aux sources et construire notre foi sur ce point-là. Alors une question annexe qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut collaborer avec ces gens-là qui sont néo-orthodoxes ? C'est pas, puisqu'ils annoncent le salut, mais quand même de manière différente. Alors, c'est toute la question de la collaboration, jusqu'où est-ce qu'on va? On a entendu, je crois, une très bonne exhortation hier matin sur l'ouverture qu'on doit faire aux autres. Mais c'est clair que la tolérance que Dieu nous demande a ses limites. L'apôtre Paul est, on pourrait dire, l'homme le plus tolérant au monde, mais c'est aussi un homme extrêmement intolérant. Ça dépend des circonstances. Et parfois, il était très très ferme pour rejeter les autres. Et parfois, il exhortait les autres à accueillir le faible dans la foi. Alors, toute la question, c'est de savoir quand il faut être tolérant et quand est-ce qu'il faut être intolérant. Et c'est peut-être là où c'est assez difficile de le dire. Mais je pense quand même que la position sur l'écriture est une question fondamentale. Parce que si on n'est pas au clair dans ce domaine-là, alors ça veut dire que toutes les autres doctrines, tous les autres points de vue, deviennent sujets à discussion et on commence à être sur un flou. Ça ne veut pas dire que si on est tous, si on accepte tous l'écriture, on sera tous du même avis sur tous les points, mais au moins on aura un point de référence objectif et non pas seulement une impression qu'on pourrait avoir. Alors il me semble quand même que l'attitude par rapport à la parole de Dieu est très importante. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais rien avec un orthodoxe, mais on sera peut-être assez réservé dans nos engagements. Comme ça, c'est ce qui est sage de faire. Et peut-être la collaboration, ou le degré d'accord au niveau de la foi, va varier en fonction de l'engagement qui nous est demandé. Je pense que si quelqu'un veut joindre une église, alors il me semble qu'il est bon de demander à cette personne de confesser certaines choses. C'est pas à la limite de signer une confession de foi, qui pourrait se réduire à plus simple expression « je crois en Jésus-Christ ». Mais peut-être qu'on devrait la développer un tout petit peu plus. Et puis celui qui veut prendre une responsabilité dans l'Église devrait être encore plus précis dans ce qu'il croit. Par contre, si on veut simplement faire une action d'évangélisation, on peut peut-être le faire avec quelqu'un qui manifeste plus de différence. Ou bien si on veut s'engager pour lutter contre l'avortement, on peut demander encore un petit peu moins de l'autre. Alors, je n'ai pas donné une réponse claire et nette ici. Je ne crois pas qu'elle est possible. Ça dépend un petit peu des situations. Voilà, donc ça c'est une question concernant la position néo-orthodoxe ou libérale aujourd'hui, notre collaboration. Est-ce que quelqu'un pourrait reprendre ou poser une autre question dans ce domaine? Je ne sais pas très bien comment répondre à cette remarque, n'est-ce pas, qu'il y ait plus de conversions dans les églises charismatiques. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, il faudrait faire les statistiques. Est-ce que les églises charismatiques grandissent plus que d'autres? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il faudrait faire des statistiques. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment un critère? N'est-ce pas, le fait qu'une église grandit, qu'une opinion devient de plus en plus populaire aussi, est-ce que ça prouve que cette doctrine est juste et bonne? Et je pense que dans l'histoire de l'église, on apprend plusieurs leçons qui nous laisseraient plutôt un petit peu plus prudents dans ce domaine-là. Parce que, entre autres, au IVe siècle, lorsqu'il y avait la controverse avec l'arianisme et puis la personne même de Christ, qui est Jésus-Christ, la majorité des croyants et des responsables n'affirmaient pas que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Il y avait des petites nuances ici qui tendait dans un sens ou dans l'autre. Il a fallu toute la force et tout le courage d'Athanase pour que, au Concile de Nicée, on affirme une doctrine qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, c'est une minorité. On pourrait prendre l'exemple de la Réforme. On a un Luther qui est sorti en quelque sorte du courant général pour affirmer quelque chose qui nous paraît tout à fait juste. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on courant une tendance à plus de succès aujourd'hui qu'elle est dans le bon chemin. On vit quand même dans une société qui est très marquée par, je dirais, l'existentialisme, par l'instantané, par le maintenant. Alors c'est clair que quand vous arrivez vers les gens et vous leur prêchez un évangile Christ va être ta bénédiction pour maintenant, ben, vous allez avoir du succès, parce que c'est ce que les gens cherchent. Mais est-ce que c'est vraiment le fondement même de notre message? Est-ce que c'est ce que nous devons d'abord annoncer? La première chose, me semble-t-il, d'après la Bible, c'est de dire à quelqu'un, tu sais, tu es sous la colère de Dieu. Et que si tu continues comme ça, tu vas aller, tu vas être jugé par Dieu, tu vas aller en enfer. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour toi, pour tes péchés. Même si maintenant, depuis aujourd'hui, tu vas souffrir 10 fois plus qu'avant, c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Parce que tu as toute l'éternité à vivre dans les joies de la présence de Christ, et non pas en enfer. Et il me semble que si j'annonce ça aujourd'hui, est-ce que j'aurai plus de succès? J'ai l'impression que j'aurai moins de succès. Parce que c'est pas un évangile populaire. Et je crois qu'on doit faire attention ici à d'abord non pas chercher le succès, mais à chercher la fidélité. Et si Dieu donne du succès à notre ministère, gloire à lui et non pas à nous. On peut penser à des prophètes comme Jérémie qui n'était pas populaire. On l'a même mis au fond d'une citerne pour qu'il arrête de prêcher. Ce n'était pas populaire. Mais Dieu nous demande d'être fidèle d'abord. Et puis après, adviendra ce qu'il adviendra. Voilà, alors rapidement encore une question, je vois que l'heure avance, qui touchait aux apocryphes. Quelqu'un m'a posé la question en ce qui concerne Marie. Est-ce que les doctrines de l'Église catholique sur Marie, est-ce qu'elles trouvent leur origine dans les évangiles apocryphes? Alors, je dirais oui, de bien des manières, en particulier les évangiles apocryphes de la Nativité contiennent toutes sortes de paroles sur Marie et sur Joseph. Et nous disent que, entre autres, Marie est montée au ciel. L'ascension de Marie trouve son origine dans un évangile apocryphe. Le fait que Marie doit être adorée, j'avais choisi même un texte ici pour aujourd'hui, peut-être que je pourrais juste lire ce texte-là. Enfin, le titre de l'évangile, ici apocryphe, me manque. Bon. Il est dit ceci. Lorsque Marie eut été portée dans le paradis, donc ici on parle de l'ascension de Marie, le Seigneur Jésus-Christ vint et avec lui une multitude d'esprits célestes. Car les fondements du paradis sont dans la terre, et son enceinte, d'où s'écoulent 4 fleuves, atteint jusqu'au ciel. Lorsque le déluge était sur la terre, le Seigneur ne permit pas à l'eau de monter jusqu'au paradis. Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin, ça touche pas tout à fait au sujet. Et Jésus dit à la bienheureuse Marie, « Contemple la gloire à laquelle tu as été élevée. » Elle se leva, elle vit une grande gloire que l'œil de l'homme ne pouvait contempler. Et voici qu'Enoch, Élie, Moïse et tous les prophètes, et les autres patriarches, et les élus vinrent, et ils adorèrent le Seigneur et la bienheureuse Marie, et ils se retirèrent. Donc ici, c'est une adoration de Marie par tous les prophètes. Et puis plus tard, il a dit, la bienheureuse Marie, étant entrée dans la première porte, les anges s'inclinèrent et célébrèrent ses louanges, et étant entrés par une autre porte, les chérubins lui offrirent leurs prières, étant entrés par la troisième porte, donc là elle monte au ciel, les différentes parties, les séraphins lui offrirent leurs prières, quand elle eut passé la quatrième porte, des myriades d'anges l'adorèrent, et quand elle eut passé la cinquième porte, la foudre et le tonnerre la louèrent, et quand elle eut passé la sixième porte, les anges s'écrièrent, « Saint, 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 le Seigneur Shabbat, salut et gloire à toi, que le Seigneur soit avec toi, loué entre les femmes, et qu'il soit loué celui qui est né de toi. » Quand elle eut passé la septième porte, la lumière la loua, et ainsi de suite. Donc, ça c'est juste un extrait. Maintenant, il faut dire que ces évangiles apocryphes sont tardifs, n'est-ce pas? Et la plupart de ces évangiles apocryphes datent d'une période qui va au-delà du 4e siècle, 4e, 5e, 6e siècle, c'est-à-dire un moment où l'Église de persécuter était devenue persécuteur. C'est-à-dire, l'empereur Constantin s'était converti, parce que c'était sincèrement pour une raison politique, Dieu seul le sait, mais il s'était converti au christianisme, et en moins d'un siècle, la foi chrétienne est devenue la religion majoritaire. Il était intéressant de devenir chrétien. Et les non-chrétiens étaient persécutés. Elles se réfugiaient dans les campagnes, et je crois que c'est pour ça qu'on les appelait les païens. À un moment donné, quand c'était tellement populaire d'être chrétien, tout le monde s'est fait chrétien, même ceux qui ne l'étaient pas. Mais ils sont devenus des chrétiens de nom, et ils ont bien sûr gardé leurs croyances, mais les ont prises dans l'Église. Et certaines de ces croyances voulaient qu'il y ait un Dieu mâle et un Dieu femelle. Et de là à ce que Marie devienne le Dieu femelle, en quelque sorte, il y avait qu'un pas à faire. Et donc de plus en plus, des gens se tournaient vers Marie, comme ils s'étaient tournés vers certaines divinités avant. Alors c'est important de dire de quelle époque datent ces évangiles apocryphes, et il y a toutes sortes d'explications qui sont données dans ces évangiles de la nativité. Et puis il y a une dernière question, et je crois que je vais m'arrêter avec ça, parce que je vois que l'heure a avancé. Quelqu'un avait posé la question, dans Jean 7,38, il est question d'une citation de l'Ancien Testament. Alors, j'ai dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, la question, c'est, où trouve-t-on cette Écriture dans la Bible? Alors, dans ma Bible, j'ai une petite référence qui me dit Ésaïe 58:11. Alors, si vous prenez Ésaïe 58:11, peut-être la personne qui a posé la question a lu cette référence, il est dit, l'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Alors, il y a un petit peu un problème, parce que ce n'est pas exactement la parole dans Jean. Alors on se dit, mais en fait, cette parole dans Jean, elle ne trouve pas son équivalent dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, il est quand même dit, n'est-ce pas, comme le dit l'Écriture. Alors, parfois, quand on cite un texte de l'Écriture, on ne cite pas nécessairement mot à mot, mais on peut citer le message, le contenu général. On peut résumer en d'autres mots le même enseignement. Et je crois que c'est ce qui s'est produit ici avec Ésaïe 58:11. C'est effectivement une référence à ce texte, mais elle n'est pas faite de manière littérale, mais fidèle quand même au message.